vous êtes bien à l'écoute de Transistor Midi, il est 13h sur nos ondes, l'heure du journal de l'actualité, un journal plein de bonnes nouvelles pour vous mettre de bonne humeur. Alice et Pierre ont chiné pour vous les meilleures et les plus réjouissantes informations de l'actu.
Et bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des bonnes nouvelles. Nous sommes en direct pour la deuxième fois à l'occasion de cette si belle journée de la radio. Nous sommes là pour vous faire sourire un peu et mettre du soleil dans votre midi. Oui. Je suis actuellement en remplacement de Nicolas, pour qui toutes nos pensées vont droit au cœur, on espère. Et je suis toujours en compagnie d'Alice. Bonjour Alice. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Pierre, et bien aujourd'hui on va commencer avec de l'environnement et des éléphants, pour ensuite tout vous dire sur deux initiatives individuelles et adorables aux États-Unis. Puis on terminera ce journal sur des nouvelles plus politiques au Pays Basque et aux Pays-Bas, jeu de mots tout à fait fortuit.
Et pour la chronique animaux mignons de ce journal des bonnes nouvelles, direction le Cambodge, plus précisément dans la réserve naturelle de Khao Saima, où pas moins de 11 éléphants d'Asie ont été secourus à la fin du mois dernier.
Oui, adorable.
La dizaine de pachydermes s'est retrouvée coincée dans un trou creusé par une bombe lors de la guerre du Vietnam. Le trou, dont les parois atteignaient environ 3 mètres, avait été mis à profit par des agriculteurs pour stocker de l'eau, transformant la fosse en un piège boueux dont les éléphants n'ont pu être délivrés que par la construction express d'une rampe. Le sauvetage n'a pris que quelques heures et les animaux ont été nourris et abreuvés pendant la construction de la rampe. Ils sont désormais tous libres, sains et saufs.
Eh ben merci pour cette première nouvelle, Pierre. Et on va partir cette fois pour l'Inde pour parler un petit peu d'environnement et d'énergie. Parce que il y a 2 semaines plutôt avec Nicolas, on vous parlait d'une île écossaise autosuffisante en électricité. Eh bien, l'Inde n'y est pas encore malheureusement, mais ça avance. En effet, le pays a presque doublé sa production d'électricité par panneau solaire en un an. Il est passé en fait de 6 763 MW fin mars 2016 à 12 289 MW fin mars 2017. Donc on voit que c'est quand même plutôt une bonne hausse. Et en effet, on comprend aussi qu'une telle hausse a pu être réalisée, puisque avec l'élection en 2014 du Premier ministre Modi et les quelques objectifs qui ont été fixés par son gouvernement en matière d'énergie, on voit que la place des énergies renouvelables s'est un petit peu accrue, parce que ce n'était pas forcément un sujet qui prenait beaucoup de place dans la politique de l'Inde. Et on a donc des commentateurs qui effectivement donnent leurs avis, et notamment M. Santosh Vaida, qui souligne que le gouvernement s'était quand même fixé un objectif de 20 000 MW, mais que tout de même, le résultat obtenu est déjà significatif, et que des progrès en la matière sont donc bel et bien possibles. Les conséquences pour le budget indien sont aussi assez importantes, elles se font déjà ressentir, puisque produire des énergies renouvelables est en fait moins cher et du coup certains départements des ministères indiens, comme notamment celui des transports, espèrent pouvoir récupérer un petit peu d'argent pour développer les lignes de chemin de fer à travers le pays.
Et zoom, on se rend droit à Los Angeles, où un Angeleno nommé Eugene Yoon a eu une révélation il y a de cela 2 ans. Il s'est senti appelé à faire une bonne action pour quelqu'un.
Incroyable.
Quelque chose qui puisse vraiment changer la vie de cette personne. Il a alors rencontré, par le biais d'une vidéo sur Internet, Arthur Renovitsky, paralysé à la suite d'une agression à l'arme à feu. C'est alors devenu l'unique objectif d'Eugène que de voir Arthur marcher à nouveau. Il a abandonné son métier afin de lancer une grande campagne de financement pour un exosquelette pour Arthur. Il a commencé à traverser les États-Unis à pied, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, tout en relayant des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est environ au niveau de l'État de Washington, ou Washington pour nos amis québécois, qu'il a appris que son objectif de 80 000 $ pour l'achat de l'exosquelette était atteint. Bon, Mais vous allez me dire, ça fait quand même 2 ans. Et c'est bien vrai, c'est pas une nouvelle qui date d'hier, en effet, ça date plutôt de décembre 2015. Mais la bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est que Eugène Youn ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il a décidé de continuer sur sa lancée, et il a cette fois rencontré Alberto Velázquez, qui vivait dans des conditions précaires avec 24 membres de sa famille. Il a alors embauché Alberto pour créer une chaîne de vêtements éthiques. Alberto a désormais un travail et la marque de vêtements peut proposer aux clients des vêtements de qualité, faits main et avec amour.
Merci Pierre, et on va rester toujours aux États-Unis et je vous le garantis avec une nouvelle qui normalement devrait vous attendrir, ou sinon posez-vous des questions sur vous-même quoi.
D'accord, très bien.
Je vous fais des bisous quand même, on vous aime bien. Donc en fait il s'agit d'un vieux monsieur de 88 ans qui est veuf depuis maintenant quelques années. Oui, je sais, ça commence très bien. Mais qui, en souvenir de sa femme, et pour faire le bien autour de lui, parce que ça compte quand même, a décidé de coudre des couvertures. En fait, l'histoire remonte vraiment à plusieurs années, quand je dis à plusieurs années, c'est vraiment plusieurs dizaines d'années, où lui et sa femme réalisaient déjà ensemble des couvertures. Mais c'était la femme de ce monsieur qui s'occupait notamment de choisir les tissus, de les coudre ensemble, de faire les finitions. Et c'était elle qui mettait le tout en forme et qui décidait quoi faire avec. Et ce monsieur a décidé de continuer tout seul à faire ses couvertures. Et avec toutes celles qu'il est déjà parvenu à réaliser, il a pu équiper tous les officiers de police de sa ville. Donc ces policiers en fait utilisent les couvertures lorsqu'ils sont confrontés à une personne en état de choc ou alors lors d'opérations dans des températures très basses pour protéger les civils, parce qu'on se rend compte qu'effectivement c'est un peu compliqué quand on arrive qu'il fait moins 15 et qu'on n'a rien à proposer par exemple à quelqu'un qui vient de se blesser quoi. Donc cette mission accomplie pour ce monsieur, ce super papy a décidé de ne pas s'arrêter là. Sa nouvelle mission, offrir toutes les couvertures à venir à l'hôpital pour enfants Peyton Manning à Indianapolis.
Oui, yes. I see. Good news, everyone.
Et maintenant, passons à des nouvelles politiques, mais pourtant de bonnes nouvelles quand même.
C'est assez rare pour le souligner.
Oui, exactement. Ce sont des choses qui arrivent.
Et donc, cette fois-ci, on va faire un long trajet et nous allons descendre dans le sud, au Pays Basque. Alors, il y a du nouveau dans le développement de l'arrêt des opérations armées de l'organisation séparatiste ETA. Organisation séparatiste qui a été particulièrement active dans les années 80 et 90, causant, hélas, la mort de 829 personnes. Mais pourtant, en 2011, l'organisation a décidé de décréter un cessez-le-feu et a commencé son opération de désarmement. Eh bien, ce samedi 8 avril, oui, il a fallu beaucoup de temps, mais au moins l'effort est là. Donc, ce désarmement a nécessité une organisation très importante, les membres de l'organisation étant bien entendu recherchés à la fois par les autorités françaises et les autorités espagnoles, parce que le Pays Basque, c'est à cheval sur les deux pays.
Merci pour la géographie.
Des membres de la société civile, parfois des bénévoles du groupe Artisans de la Paix, mais aussi des personnalités, soit politiques, soit citoyennes, telles que José Bové, Matteo Zuppi, représentant du Vatican, ou encore Harold Good, qui a également participé au désarmement de l'IRA en Irlande, autre groupe indépendantiste qui a causé beaucoup de morts en son temps. Ils ont donc ainsi joué le rôle d'observateurs, tandis que les autorités françaises ont sécurisé le site de stockage des armes et d'explosifs, et il n'y avait aucun accident. Bernard Cazeneuve, notre actuel Premier ministre, ou ancien ministre de l'Intérieur et ministre de plein d'autres choses avant ça, a annoncé que les produits dangereux seront détruits, tandis que les armes pourront aider à résoudre des affaires encore ouvertes. Dans le but de reconstituer l'histoire complexe du mouvement terroriste et d'amener des réponses aux familles, surtout des victimes. La page du terrorisme basque n'est donc pas complètement tournée, mais on arrive à la fin du bouquin. Ce désarmement qui s'est passé à merveille est une excellente nouvelle pour la région et nos deux pays concernés.
Et enfin, comme promis, on vous emmène aux Pays-Bas où c'est plat, mais où les gens ont quand même l'air plutôt sympas. Alors bon, après ça va entrer en directe contradiction avec la phrase qui suit tout de suite, mais il faut pas s'y fier. Hein. Alors, Après la violente agression d'un couple homosexuel attaqué parce que les deux hommes se tenaient par la main,
cool,
c'est pas très très fun.
Sympa.
Ce qui est le plus sympa après, par contre, c'est que de nombreux Néerlandais se sont mobilisés dans les jours qui ont suivi. Et on a notamment pu observer sur les réseaux sociaux et les Néerlandais dans la rue, ils ont pu observer en fait des hommes qui se tenaient par la main, quelle que soit leur orientation sexuelle, en soutien à ces deux hommes agressés. Et on a notamment pu voir se balader Alexander Pechtold, le chef du Parti libéral démocratique, et Wouter Koolmees, un membre de ce même parti, main dans la main, alors qu'ils se rendaient en plus à une manifestation en faveur des droits des homosexuels. Et ce qui fait encore plus chaud au cœur, c'est de voir que cette initiative a été suivie un peu partout dans le monde, notamment à New York et La Havane, mais dans la communauté des expatriés néerlandais, mais aussi par certaines autres personnes qui cherchaient à montrer leur soutien. Donc c'est une initiative qui nous fait plaisir. Et sur toutes ces bonnes nouvelles, nous vous souhaitons à tous une très belle journée sur Transistor.
Ben, elle est forcément un petit peu plus belle grâce à vous deux et grâce à ce journal des bonnes nouvelles vitaminées. Et on en profite pour faire un clin d'œil à l'homme de l'ombre, le havrais resté embusqué dans un labo à Paris hors de cette journée de la radio. Nicolas, jamais accord de bonnes nouvelles et de chouettes idées. Tu nous écoutes certainement et on t'embrasse très fort.
On t'aime, Nicolas.